Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Il existe dans l'enseignement religieux une théorie selon laquelle Dieu aurait décrété en lui-même le destin de chaque individu, autrement dit, qu'il y a bien longtemps qu'il a décidé ce qu'il adviendrait de chaque personne. L'Éternel a donc prédestiné M. A pour le ciel et M. B pour l'enfer, et cela avant leur naissance, et en dominant leur volonté à un point tel qu'ils ne peuvent absolument rien faire pour que ce destin dévie dans un sens ou dans un autre. D'après ces spéculations, toutes subjectives, M. B se trouve dans l'impossibilité d'accepter l'évangile de Christ, tandis que M. A ne peut s'y soustraire ou manquer de l'accepter. Il est évident qu'une fois cette théorie acceptée, il ne manque pas de passage de la Bible pour apparemment la soutenir. Toutefois, lorsque l'on pénètre jusqu'au cœur même de cette théorie, on s'aperçoit très vite que sa base ne repose sur rien de plausible, ni même de concret. Par ailleurs, les versets bibliques sur lesquels se basent les partisans de la prédestination prennent alors un tout autre sens, opposé à leur interprétation. Examinons maintenant de très près et avec un esprit ouvert certaines Écritures. En Romains 8, 23 et 30, il est fait mention de certains hommes appelés selon le dessein de Dieu, connus d'avance, prédestinés, justifiés, glorifiés. En Éphésiens 1, 4, 5, il est également stipulé « Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Les sectes prônant la prédestination font reposer leur croyance principalement sur ces passages. Malheureusement pour eux, c'est précisément là que se trouve la preuve de leur erreur profonde, lorsque l'on y découvre que l'homme dispose de toute sa liberté. Liberté d'accepter ou de rejeter Christ selon sa propre détermination. Maintenant, portons notre attention sur le mot « élu » d'Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Et ne faites aucun doute qu'il s'harmonise parfaitement avec d'autres expressions telles que « appelé selon le dessein de Dieu, connu d'avance, prédestiné, justifié, glorifié » et cité par Romains, chapitre 8. Il nous faut donc découvrir dans quel sens nous sommes connus d'avance, prédestinés et appelés. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons exactement comment Dieu nous a choisis en Jésus-Christ. Sachons qu'en Romains chapitre 8 et verset 28, il est bien parlé de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, ils étaient connus, prédestinés et appelés selon son dessein. Mais voyons ce que représente tout cela accompli selon le but divin. En Romains 9, 24, nous pouvons lire que Dieu nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Une chose coule de source. Il nous a tous appelés selon son dessein. Ainsi, si nous pouvons trouver un exemple montrant comment les gentils ont été appelés par Dieu sous l'évangile de grâce, nous saurons comme chaque être humain est en réalité appelé selon le dessein de l'Éternel. Ça ne sera pas difficile. En Actes 15, 14, il est dit que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Il s'agissait donc bien des gentils. Actes 15, 7 cite également les paroles de Pierre. « Mon frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Ces paroles ont un rapport direct avec Corneille, gentil par excellence puisque soldat romain, ainsi qu'au sien. Lors de cette rencontre, il avait également affirmé en vérité, « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. De ce que nous venons de voir ensemble se dégagent plusieurs choses. La première, Dieu a appelé les gentils, les païens. La deuxième, il affirme sa présence parmi eux par le truchement de la prédication d'un apôtre. Troisièmement, le même apôtre affirme qu'il comprend que Dieu ne fait pas exception de personne quant à la possibilité du salut. Il est évident que l'Éternel aurait une nette préférence pour M. A en le prédestinant d'office à aller au ciel, tandis qu'il enverrait M. B tout droit en enfer. On pourrait dans ce cas parler de sélection aveugle et par conséquent monstrueusement injuste. Par ailleurs, l'apôtre Pierre affirme que Dieu ne peut agir ainsi et ne fait aucun doute qu'il prêchait bien là l'évangile que Christ lui avait donné pour mission de proclamer. Telle est la manière dont les humains sont appelés selon le dessein de Dieu après que son Fils fut devenu le sauveur du monde. Il ne fait aucun doute que le but divin ou le projet de salut destiné aux hommes est prédestiné. Les êtres humains peuvent être appelés seulement d'après ce but, ce plan. Au fur et à mesure qu'ils entendent et reçoivent dans leur cœur l'évangile prêché par les apôtres. C'est comme cela que Dieu nous choisit. Le fait que l'Éternel ne fait aucune préférence entre les hommes prouve qu'une personne, une fois choisie par Dieu, l'est au même titre que toutes les autres qu'il désire sauver et qui ont volontairement accepté son appel. Voyons maintenant certains passages des Écritures que contredisent vigoureusement les adeptes du choix ou de la prédestination de certains hommes par Dieu. En Tite 2,11, on peut lire « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Mais la théorie la plus courante de la prédestination soutient que le salut est offert à certains hommes et que, par ailleurs, il en est qui pourraient ne pas l'accepter. Écoutez le véritable cri de douleur de Christ cité en Matthieu 23,37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Les sectes disent, c'est parce qu'ils ne le pouvaient pas. Mais Christ ne dit pas cela. Sa phrase est claire, vous ne l'avez pas voulu. Et ne faites aucun doute que ces gens l'avaient délibérément repoussé. La responsabilité de la volonté humaine est d'ailleurs mise en évidence par Josué lorsqu'il fait ses adieux aux Israélites. Choisissez, leur dit-il, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. S'ils n'étaient que les instruments passifs de la volonté de Dieu, pourquoi le prophète parle-t-il ici de choix? Tout simplement parce que leur futur dépendait de leur propre décision. En Matthieu 11, 28, il est dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi dès lors prétendre que le Seigneur ne donnera du repos qu'à une certaine catégorie d'individus choisis, désignés d'avance? Supposons que l'un des non-élus lise ce verset des Écritures et qu'il s'entende dire qu'il lui est impossible d'aller à Jésus. Qui prendra-t-il pour mentor? Le Seigneur ou ce dirigeant religieux? Il ne fait aucun doute que cet homme vivra en dehors de la présence de Christ est bien fatigué et chargé, et que l'invitation que lui lance le Fils de Dieu s'adresse aussi bien à lui qu'à tous ceux qui se trouvent dans son cas. Pourquoi également faire dire à une invitation à Jésus ce qu'elle ne signifie pas du tout? Il en va de même avec un passage à la fois significatif et poignant de l'Apocalypse. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Que nous voilà loin d'un choix ou d'une contrainte venant de Dieu, ne trouvez-vous pas? Paul, ce même apôtre, sur les écrits duquel les diverses sectes se reposent précisément pour étayer leur doctrine de la prédestination des êtres, dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance par la connaissance de la vérité. » La fameuse théorie humaine veut que Dieu ait destiné seulement un certain groupe de gens choisis à l'avance au salut éternel. La Bible, dans le passage que nous venons de lire, enseigne tout à fait l'opposé. Dieu désire le salut de tous les êtres humains. Mais eux, par contre, battent ce désir en brèche en le refusant, parfois même avec acharnement. Paul dit dans son épître aux Romains, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Si cette théorie de la prédestination telle que l'enseigna, par exemple, Calvin et bien d'autres, correspond à la réalité, la citation que nous venons de lire ne devrait pas se trouver dans la Bible, livre inspiré de Dieu. Si le Créateur a décidé avant qu'il naisse, si cet être ira au ciel ou en enfer, et si cet homme se voit retirer le droit d'en décider par lui-même, nous le voyons obligé de dire que sa responsabilité en la matière est complètement dégagée et qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Cet homme sera donc dans l'impossibilité absolue lorsqu'il comparaîtra devant Dieu au jour du jugement de rendre compte pour lui-même. La logique et la justice voudraient que ce passage fût alors rédigé comme ceci. Chacun de nous rendra compte de ce que Dieu a décrété en ce qui les concerne avant sa naissance. Tel est l'enseignement que certains voudraient nous faire accepter, mais la Bible, une fois de plus, s'élève bien au-dessus de telle théorie et en rend les hommes totalement responsables. Un passage de même nature se situe en Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. À nouveau, nous voici confrontés avec un verset enseignant que le jugement final dépendra de ce que l'homme aura fait durant sa vie et non de ce que Dieu aura décidé pour lui, sans qu'il puisse réagir dans un sens ou dans un autre. Si l'idée d'un choix fait d'avance est vrai, il serait nécessaire que sa parole soit exprimée ainsi. Alors, il rendra à chacun selon la décision prise pour lui par l'Éternel avant sa naissance et en dehors de tout exercice de sa libre décision. Mais tout ceci ne serait que juste si cette doctrine correspondait à la volonté de Dieu. Or, une fois de plus, ce que dit la Bible est exactement le contraire. Le jugement aura lieu sur la base des œuvres, des actions de l'homme, des œuvres des hommes et non de celles de Dieu. Loin de moi l'idée de penser que l'homme est assez bon pour se sauver lui-même, ni même de nier la doctrine du salut par la grâce divine. Oh non, personne ne pourrait être sauvé si nous devions dépendre seulement de nos actes et sans que la grâce divine joue en notre faveur. Cette grâce, en effet, fait pour l'être humain ce qu'il lui est impossible de réaliser pour lui-même en lui faisant connaître le dessein et la volonté de Dieu. L'être humain peut alors, s'il le veut, l'accepter d'une manière librement consentie et vivre en accord avec ce que Dieu lui demande de faire. Ce sont là les œuvres selon lesquelles nous serons jugés. Nous sommes tous libres d'accepter de faire la volonté de Dieu et d'être sauvés par sa grâce, ou au contraire de le rejeter et de finir en enfer. L'homme n'est pas prédestiné dans le sens où on veut le faire croire. Il est libre. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Vous envoyez le texte intégral de cette causerie gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime.